Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Patience Ngalula Mbombo.
Les titres de cette édition d'information. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a lancé hier un projet dénommé la plus grande réserve forestière tropicale du monde. C'était lors de son intervention à l'occasion de la 55e édition du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Félix Tshisekedi parle de l'importance de ce projet dans ses journaux. Intensification des combats au nord et au sud Kivu. Le comité international de la Croix-Rouge déplore l'afflux des blessés depuis le début de l'année dans les structures sanitaires qu'il soutient. En tout cas, les CICR dit poursuivre les dialogues avec les parties en conflit afin de minimiser l'impact des affrontements sur la population civile. Notre invité est Bruno Lemarquis, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en République démocratique du Congo. Dans ses journaux, il invite les gouvernements à mettre en place les moyens nécessaires pour stabiliser les zones sous menace des rebelles dans l'ensemble de la province du Nord Kivu. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal. Le président Félix Tshisekedi lance les projets qu'il appelle la plus grande réserve forestière tropicale du monde. Il a fait cette annonce ce mercredi dans son discours à l'occasion de la 55e édition du Forum économique mondial de Davos en Suisse. C'était lors des travaux du panel autour du thème « Les derniers poumons de la Terre ». Il s'agit selon lui d'un vaste projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et stimuler le développement économique. On écoute Félix Tshisekedi.
Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète, tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques, incluant des emblématiques gorilles de montagne, l'unique okapi et une multitude d'autres espèces végétales et animales propres au bassin du Congo. Cette initiative constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes.
Justement, ce projet va vraiment se concrétiser. Nous allons utiliser notre sagesse, notre leadership pour constituer quelque chose qui va véritablement transformer des vies et qui pourra servir d'exemple pour le reste de la planète sur la façon dont on peut avancer intelligemment vers l'avenir. Propos de John Kerry, ancien secrétaire d'État américain, après l'annonce par le président Félix Tshisekedi de la création de la plus grande réserve forestière tropicale du monde ce mercredi au Forum économique mondial de Davos. Pour lui, il est important de soutenir ses projets malgré de nombreux défis, notamment sur les plans sécuritaires. On écoute John Kerry.
On sait tous qu'il y a eu des combats à l'est et au nord. J'y ai assisté moi-même. Je me suis rendu de nombreuses fois en RDC et également au Rwanda. Et nous avons pu constater à quel point les troubles continuent. Mais si l'on donne une alternative aux individus en lui disant « vous pouvez vous battre ou vous pouvez travailler à construire quelque chose de fort ». Et donc nous avons le pouvoir de changer l'histoire, mais aussi de gagner cette bataille dans laquelle nous sommes tous partie prenante. Vous savez, le bassin du Congo est seul pour l'instant. La première fois où je me suis rendu en RDC et où j'ai pu voir de mes yeux cet énorme fleuve couler, on sent la puissance et la majesté de ce fleuve et on sent qu'elle peut être apprivoisée pour changer des vies. Et c'est comme cela que l'on peut sortir les jeunes de la violence, leur trouver des emplois, leur trouver un avenir. Et c'est extrêmement important dans le contexte actuel. Moi-même, de mon point de vue, du secteur privé qui est maintenant le mien, j'ai l'intention de continuer à travailler avec nos collègues à la réussite de ces projets. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que d'annoncer un projet formidable et qu'ensuite rien ne se passe.
C'est un dossier signé grâce à Hamzati. Au Nord Kivu, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, indique faire face en ce moment à un afflux de blessés dans les structures sanitaires qu'il soutient, notamment l'hôpital Sebekandosho à Goma, l'hôpital général des Beni et des Bukavu. Toutes ces structures sont actuellement saturées, affirme cette organisation internationale humanitaire. Sifa Maguru revient avec plus de détails.
D'après la chef de bureau CICR Goma, Myriam Favier, depuis 1er janvier, le CICR a reçu 215 blessés jusqu'au 20 janvier dans la structure de Sebekandosho. Si les années précédentes, les chiffres annuels dans cet hôpital étaient d'environ 600 à 650 patients, en 2024, plus de 2100 patients ont été reçus et soignés par le programme de chirurgie des guerres. Notez par ailleurs que dans les zones touchés par les combats, le CICR affirme qu'il continue à soutenir les structures de santé limitées pour répondre aux besoins des blessés. Des kits de stabilisation ou du matériel médical pour stabiliser les patients leur sont distribués, nous ont-ils dit. Sur un autre volet, le CICR tente de réunifier les familles qui ont été séparées par les combats, particulièrement celles dont un ou plusieurs membres ont été blessés. Le CICR indique qu'il continue son dialogue confidentiel et bilatéral avec les parties en conflit afin de minimiser l'impact des affrontements sur la population civile, précise ses responsables. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, où les gouverneurs interdisent jusqu'à nouvel ordre la navigation diurne et nocturne des petites embarcations sur les lacs Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Cela suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma causée par l'agression rwandaise sous les labels du M23 AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu. Cette décision de l'autorité provinciale est contenue dans un communiqué publié ce mercredi à Goma. Sur ces, les services de sécurité sont instruits d'éveiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi, conclut les communiqués. Pour sa part, la coalition Lamuka s'est dit préoccupée par la catastrophe humanitaire consécutive à la prise des Minova par les rebelles du M23, telle qu'est confirmée par les gouverneurs du Sud Kivu et l'armée. C'est les porte-parole de cette plateforme de l'opposition qui l'est dit dans une déclaration ce mercredi à Kinshasa. Prince Epenge lance un appel à l'aide pour ces milliers de déplacés. On l'écoute au micro d'Alain Rung.
Lamuka et la DD Congo joignent leurs voix à ceux du peuple pour lancer un SOS. Nos populations de Minova, de Bweremana et ailleurs sont prises en étau. Plus de 178 000 Congolais, femmes, hommes, enfants, vieilles et vieux, sont à nouveau en fuite, sans eau, sans vêtements, sans nourriture, sans un likuta en poche. Lamuka est extrêmement étonné de constater qu'entre-temps, le commandant en chef de l'armée, Félix Tshisekedi, lui, est à 10 000 km du Congo, en Suisse, où il parle du réchauffement climatique, où il parle de comment protéger les forêts et animaux, alors que son devoir constitutionnel le premier est de protéger les vies des Congolais au Nord Kivu, aussi du Kivu et ailleurs.
La crise sécuritaire qui sévit au Nord Kivu avec les rebelles du M23 ne doit pas nous faire oublier la situation humanitaire encore précaire dans la province de l'Ituri en proie à l'activisme des groupes armés locaux. Ces propos sont du coordonnateur résident et coordonnateur des affaires humanitaires qui est arrivé ce mercredi à Bunia, en Ituri. Au sortir de sa rencontre avec le gouverneur de province, Bruno Lemarquis a salué les efforts du gouvernement provincial et ses partenaires, dont la MONUSCO, pour l'amélioration de la situation sécuritaire en province. Il indique que cette crise nécessite la mobilisation des ressources pour renforcer les solutions durables et permettre le retour des populations dans leur milieu d'origine. On écoute Bruno Lemarquis au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Rien qu'après cette réunion que nous venons d'avoir, ces messages de plaidoyer, c'est bien sûr, compte tenu de tous les défis sécuritaires qui y a à l'est de la République démocratique du Congo, notamment la crise du M23, qui prend énormément de ressources et d'hommes, il ne faut pas oublier les autres crises. Éviter de créer des vides sécuritaires, parce que tous les efforts qu'a fait la province, tous les efforts qui ont été faits sous le leadership du gouverneur en termes de ramener la sécurité dans certaines zones, on ne doit pas détricoter ce qui a été tricoté. Donc c'est un plaidoyer pour toujours assurer la présence sécuritaire dans la province de l'Ituri. Auprès des partenaires de développement, investissez en Ituri, investissez dans les solutions durables, parce que si les dynamiques de développement ne se mettent pas en route, si on pense aux jeunes, il faut trouver des voies pour la jeunesse de l'Ituri, pour éviter qu'ils rejoignent les groupes armés. Et puis, plaidoyer auprès des partenaires humanitaires, donc la communauté internationale, qui finance en grande partie cette réponse humanitaire pour qui continue à investir dans tous les besoins humanitaires qu'il y a au niveau de la province.
Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga, où les villes de Likasi et de Lubumbashi sont, depuis ce mercredi, à leur deuxième jour du couvre-feu, instauré par les autorités pour combattre la criminalité urbaine. Pour Justicias Bell, une ONG de défense des droits de l'homme, des améliorations sont enregistrées et il y a de moins en moins des cas d'insécurité qui sont signalés. Toutefois, elle demande aux autorités de doubler d'efforts pour que les populations de ces villes retrouvent la quiétude et la sérénité. Timothée Mbouya, président de Justicia Asbel, l'a dit au micro de Jean Gandou.
À Lubumbashi particulièrement, la situation s'est nettement améliorée le premier jour. Et le deuxième jour, le couvre-feu a été perturbé par la pluie. Et vous savez qu'il a plu presque toute la nuit et que ce qui a fait que malheureusement, certaines barrières n'ont pas bien fonctionné. Dans le même ordre d'idées, on a enregistré un appel d'une famille dans le centre-ville de Lubumbashi qui a lancé une alerte de la présence des bandits dans la parcelle. Les autorités sont intervenues. Disons globalement que ça se passe plus ou moins bien. La situation est calme par rapport à ce qu'elle était il y a quelques jours. Mais je pense, comme je l'ai dit, il y a des mesures correctives qui doivent être prises rapidement pour éviter que le couvre-feu ne soit interrompu, par exemple, pendant ces temps de pluie, ou pour éviter que des malfrats ne profitent pour opérer dans les endroits où il n'y a pas suffisamment de barrières.
La situation alimentaire est préoccupante dans la province du Kwango. Depuis un certain temps, la malnutrition aiguë, sévère et chronique sévit dans ces coins du pays, plus précisément dans les zones de santé des Panzi et des Wambaluadi en territoire des Kasongo-Lunda. L'alerte est lancée par Shadrach Kasongo Kabea du ministère provincial de la Santé du Kwango qui revient de ces zones pour des enquêtes. D'après lui, plus de 70 décès causés par la malnutrition ont été signalés en novembre dernier dans ces deux zones de santé et une trentaine de cas de décès enregistrés au cours de ces mois de janvier. Il plaide auprès de l'État congolais pour une réponse urgente et durable face à cette crise. On écoute Shadrach Kasongo Kabea, joint par Irène Bomaluzolo.
Il y a une installation de la sécurité alimentaire. Il y a la malnutrition chronique aiguë sévère. Et comme conséquence, il y a le mort en cascade dans la zone de santé de Panzi et dans la zone de santé de Wambaluadi. Presque toutes les 5 zones de santé du territoire de Kasongo-Lunda sont concernées par la malnutrition. Mais beaucoup plus le plus centre, c'est dans les 2 zones de santé dont je viens de vous décrire. J'étais au terrain. Au premier tour, on avait enregistré plus de 70 décès dus à la malnutrition. C'est la période allant du début novembre jusqu'à fin novembre de l'année passée. Et à pas encore 2 semaines passées, on a enregistré plus de 30 morts dans le village Tambouteke et dans le village Mombo. Ce sont des décès qui ont été causés par la malnutrition. Il y a eu le cas Kwashekore et le marasmique, toutes les tranches d'âge. Ça nécessite une réponse en urgence. Vous comprenez, quelqu'un qui a atteint de la malnutrition, son système immunitaire devient trop faible et que toute pathologie qui vient, la personne sera attaquée. Il n'y a pas d'intra, il faudrait que l'État congolais fasse quelque chose.
D'après Shadrach Kasongo, presque toutes les 14 zones de santé de la province du Kwango ont des problèmes de malnutrition. Autre nouvelle, hausse du prix du ciment gris dans la ville-province de Kinshasa, vendu jusqu'à décembre dernier entre 28 000 ou 29 000, selon le milieu. En ces jours, les sacs de 50 kg s'achètent à 34 000 francs congolais. D'après les vendeurs et certains dépositaires, cette augmentation du prix fait suite à la réconduction depuis le début de cette année de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée fixée à 16%. Explication de Billy Ivan Lutumba.
De la tournée effectuée dans certains dépôts de la partie ouest de la ville de Kinshasa, le prix du sac est diversifié. Il vacille entre 33 000 francs pour le ciment multi-usage de teneur 32 et 34 500 francs pour le ciment de béton et mortier à séchage rapide dit de 42. Explication d'un vendeur livreur par camion.
Depuis janvier de cette année, nous nous approvisionnons en ciment avec la TVA de 16%. Depuis décembre, nous avons été signalé qu'en janvier, la TVA sera réintroduite. Actuellement, nous vendons à 11,7 $. Avant, c'était 9,8.
Comme si l'histoire se répétait, en février de l'an dernier, Vital Kamerhe, alors ministre de l'économie, avait lors d'un conseil des ministres relevé la question de l'augmentation du prix du ciment depuis janvier 2024. D'après lui, la réintroduction de la TVA à 16%, suspendue auparavant, et une série d'augmentations d'autres taxes ont engendré cette hausse. Ainsi, avait-il recommandé la reconduction de cette mesure à suspendre la perception. Aujourd'hui, janvier 2025, même période, la question des hausses du prix du ciment revient sur la table. Parlant justement de cette mesure, depuis avril 2022, le ministère de l'économie avait publié un arrêté portant suspension pour 12 mois de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée concernant la vente du ciment gris produit localement. Cette mesure fut prorogée jusqu'au 31 décembre 2023.
Actualité internationale.
La police italienne a arrêté un chef de guerre libyen en vertu d'un mandat émis par la Cour pénale internationale CPI, ont annoncé mardi le ministère de la Justice, des médias italiens et un responsable libyen. Osama Anjem, également connu sous le nom d'Osama al-Masri, dirige la branche de Tripoli de l'institution de réforme et de réhabilitation, un réseau tristement célèbre de centres de détention gérés par la Force spéciale de défense, SDF, soutenu par le gouvernement. La SDF agit comme une unité de police militaire luttant contre les crimes de grande envergure, notamment les enlèvements, le meurtre et la migration illégale.
L'invité.
La situation humanitaire demeure préoccupante dans l'ensemble de la province du Nord Kivu, où plus de 200 000 nouveaux déplacés sont signalés dans les territoires de Lubero et Beni. C'est ce qu'affirme ce mercredi à Radio Kapi les coordonnateurs résidents et coordonnateurs des opérations humanitaires en République démocratique du Congo. Bruno Lemarquis pense qu'il y a urgence, que les gouvernements mettent les moyens nécessaires et que les efforts militaires soient fournis pour stabiliser les zones sous menace. Cela pour permettre aux humanitaires d'atteindre les zones affectés par le déplacement des populations. Bruno Lemarquis s'entretient avec Marc Marofimbo.
Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu pour vous imprégner de la situation humanitaire dans la région. Quel est votre constat?
Bon, la situation humanitaire reste difficile. On a eu beaucoup de rencontres ici. C'était une visite assez courte. On a eu une rencontre avec les partenaires humanitaires qui nous ont fait le point sur la situation. Nous aurions dû aller à Lubero, mais hélas, on n'a pas pu s'y rendre à cause des problèmes de brouillage du GPS, qui posent pas mal de problèmes pour les acteurs humanitaires. Et d'ailleurs, pour tous les vols sont affectés, les vols commerciaux, etc., et les vols humanitaires. Mais on a eu un bon état des lieux par les partenaires humanitaires. Il y a eu beaucoup de nouveaux déplacements récemment, notamment dans la zone de Lubero depuis le mois de juin. Donc c'est une combinaison du conflit avec le M23, mais aussi dans certaines zones, l'activisme des ADF. Autour de Lubero, on estime qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui sont nouvellement déplacées. La plupart vivent dans des familles d'accueil. 80% vivent dans des familles d'accueil. Encore une fois, ça démontre l'exceptionnelle solidarité des communautés par rapport aux déplacés. Les 20% qui ne sont pas dans les familles d'accueil vivent dans des sites collectifs. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer ces sites, pour que les déplacés ne restent pas dans des infrastructures collectives comme des écoles, etc. Donc, les humanitaires, bien sûr, ont besoin de plus de moyens, comme toujours, vu l'étendue des besoins dans cette zone du Nord Kivu, mais également d'autres endroits du Nord Kivu et l'Ituri et le Sud Kivu. On suit tous la situation du Sud Kivu actuellement avec encore une fois un afflux de nouveaux déplacés. Donc tout ça, ça prend beaucoup de ressources, de présence des partenaires humanitaires, etc. Donc voilà, il faut continuer, il faut espérer que les solutions politiques au conflit fassent des progrès, puisque c'est la seule manière de faire en sorte que les déplacés, les personnes ne soient pas obligées de se déplacer et que les déplacés ensuite puissent rentrer chez eux.
Vous avez échangé avec des organisations humanitaires actives dans la zone. Or, on connaît les contraintes sécuritaires qui ne facilitent pas leur travail. Pouvez-vous nous dire justement dans quelles conditions travaillent chaque jour ces acteurs humanitaires pour apporter de l'aide aux personnes vulnérables qui en ont grandement besoin?
Bon, ils ont beaucoup de contraintes. Alors les humanitaires ont quand même, d'une manière générale, à part quelques exceptions, mais d'une manière générale, accès aux personnes dans le besoin, oui, puisque les humanitaires, on travaille, il faut qu'on ait accès aux personnes dans le besoin, qui qu'elles soient, où qu'elles soient, selon les principes humanitaires. Néanmoins, quand il y a des combats actifs, c'est très difficile pour les acteurs humanitaires d'être là, au milieu des combats. Donc là, c'est les problèmes d'accès physique. Ensuite, du fait notamment de l'activisme des ADF, il y a certaines zones qui parfois sont difficiles d'accès par les routes. Voilà. Donc, et puis l'autre contrainte, bien sûr, c'est les ressources, puisque bon, on n'a jamais assez de ressources vu l'étendue des besoins. Parce que partout où je vais, moi, les humanitaires disent bon, on n'a pas assez de moyens pour tous les besoins et la qualité de la réponse n'est pas suffisante. Mais pour information, les financements humanitaires qui ont été mobilisés en 2024 par les partenaires, donc les États membres, les donateurs, notamment les États-Unis d'Amérique, ont été les plus hauts jamais mobilisés en RDC, les plus hauts jamais mobilisés au cours de toutes les dernières années. Jamais il y a eu autant d'argent pour la réponse humanitaire, avec 1,3 milliard de dollars qui ont été mobilisés. Ça ne couvre que la moitié des besoins, mais néanmoins, on doit reconnaître que des efforts considérables ont été faits par la communauté internationale pour financer cette réponse humanitaire. Pour 2025, on sait que la situation va être difficile pour les financements humanitaires pour 2025, mais on va toujours continuer à faire le plaidoyer et on remercie les bailleurs de fonds pour la réponse humanitaire.
Et face à cette situation, que recommandez-vous au gouvernement ?
Bon, une demande récurrente des acteurs humanitaires, notamment par rapport à la situation, à l'activisme des ADF, la recrudescence de la présence d'ADF dans des zones où ils n'avaient pas été actifs depuis un moment, ou même de nouvelles zones, c'est la présence sécuritaire de l'État. Donc, du fait du conflit avec le M23, que ce soit dans les zones, si on peut les appeler comme ça, les zones ADF, ou cet après-midi nous allons en Ituri, mais je pense que ça va être le même plaidoyer, en Ituri, c'est le fait qu'il y a des mouvements de troupes, des troupes qui doivent être bougées vers les lignes de front, vers les lignes de défense dues au conflit avec le M23, ce qui crée certains vides sécuritaires dont profitent des groupes armés, notamment les ADF. Donc il y a une corrélation entre ces mouvements de troupes et le nombre de victimes civiles qui sont faits par les ADF. Donc le plaidoyer, c'est vraiment que les forces armées de la République démocratique du Congo continuent également à déployer des moyens sécuritaires dans ces zones-là où les populations civiles souffrent vraiment.
Bruno Le Marquis, merci.
Merci beaucoup et merci aux auditeurs de Radio Okapi.